Je commencerai, bien que la déconstruction ait mauvaise presse en France en ce moment, par citer Derrida, puisque je vais m'intéresser à l'événement dans Cloverfield, et notamment dans le premier Cloverfield. Je cite donc le pape de la déconstruction. L'événement, c'est ce qui arrive, et en arrivant, arrive à me surprendre, à surprendre et à suspendre la compréhension. L'événement, c'est d'abord ce que d'abord je ne comprends pas. Mieux, l'événement, c'est d'abord que je ne comprenne pas. Il consiste en ce que je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas est d'abord le fait que je ne comprenne pas, c'est mon incompréhension. Il me semble que c'est exactement ce qui se passe au milieu du premier Cloverfield, puisque nous sommes plongés en plein événement, et qu'en plein événement, c'est la question que Rob pose à son ami Hud, qui s'empresse de lui répondre. Oui, les gens voudront savoir, les gens voudront comprendre cet événement, comment il s'est produit. Les gens voudront savoir, c'est le plus important, les gens voudront voir ceci. Et ce qu'ils veulent voir, c'est évidemment l'événement traumatique, cet événement traumatique dont on sait depuis le 11 septembre comment il fonctionne. À partir d'une opposition à une réalité normale, une nouvelle réalité s'impose qui n'aurait ni commencement, ni fin, ni antériorité, ni postérité, quelque chose qui dépasse donc notre compréhension. Le film de Hud, celui qu'il réalise avec son caméscope tout au long du film, est comme un défi lancé à la démonstration de Derrida, selon laquelle les seuls témoignages qui échappent à l'archivation, ce sont ceux des victimes, non pas les morts ou les cadavres, mais les disparus. Et disparaître est bien le sort peu enviable qui attend les protagonistes de Cloverfield, dans le premier d'ailleurs, mais aussi dans le deuxième et le troisième volet, nous y reviendrons évidemment tout à l'heure. Il s'agit de donner au spectateur l'illusion qu'il est sur le point de visionner un document militaire classé secret par l'armée. Il s'agirait d'une carte SD qui reproduirait une cassette retrouvée dans la zone US 447, ce qui ne dit sûrement rien à personne, à part qu'on apprend par la suite qu'on la connaissait autrefois sous le nom de Central Park. Et puis, in medias res, commence l'histoire proprement dite. Il commence d'abord ce film comme une sorte de comédie romantique ou de drame sentimental, puisque pour des raisons professionnelles, Rob doit partir pour le Japon, au grand désespoir de sa petite amie Bess. Une partie est organisée, une soirée est organisée pour que Rob fête cet événement, Hud étant chargé d'immortaliser celui-ci grâce à son caméscope. Bon, tout se déroule bien au milieu des bouteilles de Bud et de Jack Daniel. Et puis, soudain, Bess, irritée, c'est le premier événement, quitte fâchée les réjouissances. Puis, deuxième événement, au milieu de la soirée à nouveau, une violente secousse ébranle l'immeuble. Et tous s'interrogent, est-ce que ça ne serait pas encore, je cite, une attaque des terroristes? Tous se précipitent dans la rue, où une foule inquiète s'est déjà rassemblée, où un grondement sourd se fait entendre, et bientôt la tête de la Statue de la Liberté tombe brutalement sur la chaussée avant de rebondir. Les spectateurs, d'abord, ne regardent pas la Statue de la Liberté, la tête de la Statue de la Liberté. Ce qu'ils font, c'est de photographier cette scène, de la filmer, pointant du doigt notre boulimie d'image. Car Cloverfield est bien la marque de notre actuelle obsession de voir tout, tout le temps, partout, en vrai ou à la télévision. Significativement, d'ailleurs, c'est sur CNN qu'on apercevra d'abord la créature. Il y aura évidemment le fameux bandeau de Breaking News, New York est attaqué. Et c'est sur la même chaîne d'information continue qu'on verra tomber sur les trottoirs de New York les parasites qui infestaient la créature et qui envahissent immédiatement les labyrinthes compliqués de la ville souterraine, les couloirs du métro, les quais, les voies, les galeries d'égouts et même les marchés souterrains. Avec une sorte de clin d'œil, d'ailleurs, au film néo-noir des années 80. D'évidence, donc, Manhattan est attaqué. Et Rob veut retrouver coûte que coûte sa petite amie. Il se dirige vers Columbus Circle où elle vit pour la sauver, montrant au passage qu'il semble avoir perdu au moins partiellement la raison. Un petit groupe d'amis lui emboîte le pas et ils empruntent les tunnels du métro jusqu'à rejoindre la proximité, le voisinage de Central Park. Nous saisissons en même temps que le groupe d'amis qu'il ne s'agit pas d'une attaque terroriste, mais d'un monstre qui est une sorte de croisement contre nature entre le Godzilla nippon et le Cthulhu de Lovecraft. C'est d'ailleurs ce monstre, on le retrouvera aussi brutalement à la fin du troisième volet. Je pense que Victor, qui adore beaucoup cette tête sortie des nuages, en parlera tout à l'heure. En réalité, nous ne faisons qu'apprendre, si je puis dire, que ce que nous savions déjà. Parce que quand on regardait attentivement l'image, l'affiche originale du film, on apercevait dans les nuages, justement, déjà, en haut à droite, le museau d'une créature penchée sur la statue de la Liberté décapitée. Dès lors, l'interrogation qui fonde le suspense n'est pas de savoir qui attaque, mais d'où vient le danger. Les conjectures vont bon train, aussi bien pour nous, véritable spectateur, que pour le groupe d'amis. Nous n'aurons d'ailleurs de réponse fugitive qu'à la toute fin du film, dans les instants qui précèdent le générique, quand on verra tomber, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, quand on verra tomber dans l'océan quelque chose qu'on devine être le monstre. Le monstre donc, à l'origine inconnu, est conjointement peu visible et toujours présent. À peine montré à l'écran, il disparaît dans une nuée de gravats et de poussière d'immeubles détruits. Ce monstre est donc un monstre de cachet-montré. Et ce jeu de cachet-montré est loin d'être gratuit. La dynamique de l'apparition et de la disparition nous mène directement aux considérations freudiennes sur l'inquiétante étrangeté. Antonio, ça ne t'étonnera pas naturellement que j'en vienne momentanément à la psychanalyse. Répétant le Forda freudien, le monstre met en effet en continuité, d'un point de vue diégétique, l'absence et la mort. Et il permet au spectateur de vivre sa peur en toute sécurité dans une épreuve ludique et fictive de réalité. Et même de jouir de l'angoisse qu'il éprouve devant des événements qui, littéralement, le dépassent. Des événements qui nous dépassent puisqu'ils sont plus grands que nature et aussi parce qu'ils outrepassent les bornes habituelles de l'imagination. Si l'on poursuit d'ailleurs la logique de ce Forda, on pourrait avancer à titre d'hypothèse que le premier Cloverfield est une histoire au cours de laquelle l'objet perdu, en l'occurrence la fiancée, Bess, se voit remplacé par un objet de substitution, ici un objet maléfique et incoercible, le monstre dont on ne parvient jamais à se défaire. On parvient d'ailleurs si peu à s'en défaire qu'il réapparaît dans le deuxième volet, puis dans le troisième qui en quelque sorte précède le premier en une étrange logique circulaire. Bref, l'épouvante de l'événement, c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi on voit peu la bête. Et c'est pourquoi aussi, dans les tunnels obscurs du métro, on ne distingue qu'au tout dernier moment les monstrueux parasites. On ne verra pas davantage ce qu'il advient de Marlena, qui est une des protagonistes du petit groupe d'amis. Tout au plus entendra-t-on un médecin s'écrier, affolé, « On a une morsure, encore une morsure », avant de remarquer qu'une gerbe de sang éclabousse le rideau de plastique qui nous cache la scène tout en la révélant. En somme, le véritable monstre, c'est le mystère. Et ce, d'autant que les personnages eux-mêmes ne cessent de s'interroger et ne sont jamais bien sûrs de ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Jason l'affirme à ses amis, « On ne sait pas ce qu'on aura vu ». Rob même nie momentanément la réalité des dévastations. C'est comme un cauchemar, c'est comme un cauchemar, c'est un cauchemar. Bess s'interroge elle-même, mais qu'est-ce que c'est? Putain, qu'est-ce que c'est? Néanmoins, ces événements qui dépassent les personnages semblent dans le même temps curieusement normaux. Évidemment, Matt Reeves et J.J. Abrams, qui ont réfléchi longuement à cette histoire du premier Cloverfield, avaient une idée derrière la tête, et la première idée géniale qu'ils ont eue, c'est d'avoir songé à un monstre qui, en s'éloignant un peu des innombrables suites et remakes de Godzilla, n'est jamais vu que depuis le regard des personnages, lesquels nous servent de support d'identification. Si on compare Cloverfield avec les superproductions du cinéma catastrophe, on s'aperçoit rapidement que ce film modifie les conventions génériques auxquelles il est soumis, notamment à travers l'esthétique du found footage et l'apparence de film amateur qui lui confère un aspect très différent des autres fictions hollywoodiennes mettant en scène des destructions massives. En effet, dans la plupart de ces films catastrophes, les images de la catastrophe, les images de l'événement sublime offrent un spectacle impeccable, puisqu'elles sont perçues depuis une certaine distance, permettant aux spectateurs de se sentir en sécurité. C'est en ce sens qu'il convient d'interpréter le recours habituel au point de vue omniscient, ainsi qu'aux vues aériennes, voire spatiales, de l'événement, événement d'autant plus impressionnant qu'il se trouve en quelque sorte embelli. Les films catastrophes traditionnels au-delà de la catastrophe, présente une image finale rassurante, comme si notre monde était certes fragile, mais aussi indestructible. Ça vaut pour les films classiques du cinéma catastrophe, ça vaut même pour les films plus récents, comme Greenland, par exemple. À travers la représentation d'images grandioses que le spectateur voit avec les yeux du ciel, en quelque sorte, ce sur quoi insistent ces films, c'est peut-être moins finalement la confusion, la désagrégation du monde ou la désorientation panique qu'engendre l'événement que la dimension esthétique spectaculaire de celui-ci. On pourrait faire une comparaison intéressante entre Cloverfield, Deep Impact, par exemple, San Andreas ou Greenland, dont je parlais à l'instant. Cloverfield, au contraire, réinscrit l'événement dans le chaos et la confusion. Tout se passe comme s'il s'agissait d'inventer un film catastrophe en prise directe sur la réalité, ou plus exactement sur ce réel sans loi dont parlait naguère Lacan. Tandis que dans les films catastrophes traditionnels, une vue d'ensemble permettait aux spectateurs d'appréhender la totalité des événements, conférant ainsi une cohérence à ces événements, dans Cloverfield, la réalité, devenue parcellaire, est circonscrite à la vision unique et particulière de quelques personnages. De ce fait, plutôt que d'une mise en scène de la lutte contre une menace, il n'est plus question que de survie, et seul subsiste l'impuissance des individus. Comme si désormais, en proie au doute, les États-Unis constataient leur vulnérabilité et leur impuissance partielle à agir sur l'histoire. Ainsi, ce que figure Cloverfield, c'est l'expérience du dessaisissement du sujet, un double désir de représenter la stupéfaction et de reproduire sur le plan de la fiction la modalité de manifestation des attentats du 11 septembre, la sidération devant le spectacle vécu comme en direct, en instantané. Une sidération qui n'est pas tout à fait la stupeur, mais qui est faite aussi d'indicible, d'innommable, d'impensable. Car l'événement, comme la catastrophe, étant à la fois immense, terrifiant, horrifique, l'événement est aussi comme une irruption du sacré dans le quotidien profane, une irruption d'une altérité radicale qui nous fascine et nous repousse conjointement. Ainsi, le film s'attache moins aux destructions commises par le monstre dans les rues de Manhattan qu'aux périples des jeunes gens confrontés à une crise extrême et à laquelle ils ne peuvent pas échapper. Rob le constate d'ailleurs en ces termes brutaux, il n'y a nulle part où aller. Si Cloverfield renouvelle si profondément le genre du film catastrophe, c'est qu'il montre le désastre dans une perspective intimiste, inventant ainsi un type inédit d'effroi cinématographique mêlé d'admiration, cette peur sur laquelle Lorraine reviendra tout à l'heure. Et dans une perspective d'autant plus intimiste que les images du présent, qui sont capturées tant bien que mal par Hud, sont régulièrement interrompues par celles que Rob a prises naguère de petits moments de bonheur avec Bess, ce qui renforce le drame qui se joue à New York et explique en même temps pourquoi Rob est prêt à tout pour sauver Bess. C'est aussi cette double alternance du passé et du présent et du collectif et du privé qui motive le tempo très rapide du film, à propos duquel J.J. Abrams voyait une forme de YouTubisation du monde, une sorte de YouTubification de notre propre monde contemporain. Bien entendu, un tel procédé prive le réalisateur de toute la syntaxe cinématographique classique. Dans Cloverfield, pas de plan large, pas de contre-champ ou de plan de coupe. Enfin, dans le premier Cloverfield et dans le deuxième, dans le troisième, il en va un peu différemment. Et puis Juliette nous parlera de la question des déplacements et on aura sûrement l'occasion de revenir sur ce point. Cloverfield présente pour autant cet intérêt de faire de tout spectateur un voyeur. Ce qui est d'autant plus intéressant que dans notre hypermodernité est devenue centrale cette jouissance copique dont Lacan montrait justement qu'elle tient au désir de lever le voile de l'horreur. On trouve ainsi dans ce film des scènes extrêmement pathétiques, comme celle, par exemple, dans laquelle Hud, pris de court, manque plusieurs apparitions du monstre. Ce monstre qu'on ne voit pas, on ne peut même pas le traquer. C'est cette impression qui se dégage du film et qui peu à peu contamine les spectateurs. Mais précisément, ces moments accroissent la tension dramatique, car c'est une donnée anthropologique bien connue que l'invisible est intrinsèquement effrayant, ce qui explique que nous redoutions surtout ce qui est hors champ. C'est la grande leçon qui a été tirée par nos deux compères des Dents de la Mer et d'Alien. Ce qui nous inquiète, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. L'originalité d'un film comme Cloverfield serait donc triple, tenant conjointement à son contenu, une nouvelle attaque de New York après le 11 septembre, à sa facture, une esthétique directement empruntée à celle du projet Blair Witch et à ses spéculations théoriques portant notamment sur le rôle de l'image dans notre société hypermédiatique. J.J. Abrams reprend ainsi quantité de lieux communs des films de genre à succès, y compris des films de série B, voire de série Z, et là aussi je crois que Victor en parlera tout à l'heure. Cependant, les modèles de J.J. Abrams ne sont pas exclusivement cinématographiques. Ils renvoient également à la sphère vidéoludique et aux nombreux jeux désormais inscrits dans les genres de la survival horror, du Doom-like ou du first-person shooter. De ce point de vue-là, Cloverfield constitue aussi une expérience immersive qui, en captivant le spectateur par un tempo soutenu, le prend au piège du surgissement de l'horreur, ou plus exactement, du surgissement de l'événement. Film catastrophe à la croisée d'autres genres, Cloverfield est aussi un film théorique qui, après le 11 septembre, interroge notre rapport à toute réalité filmée. De ce point de vue, il est un film de l'intime soudain devenu blockbuster hollywoodien, avec à l'arrière-plan le traumatisme de l'effondrement du World Trade Center. Assurément, les scènes de panique, elles sont extrêmement confuses, intenses et sidérantes, réactualisent l'affolement et le désarroi suscité par les attentats contre les tours jumelles. Et à cet égard, un des enjeux de Cloverfield est justement de restituer une dimension mythique à l'histoire et à la politique américaine dans une période d'ébranlement des certitudes idéologiques. Dans l'époque confuse qui est la nôtre, où les ennemis ne sont jamais vraiment visibles, ça valait pour les terroristes d'Al-Qaïda et ça vaut pour notre virus ou nos virus contemporains, ce film met en scène un monstre qui ne peut jamais être pris en photo ni appréhendé rationnellement. En d'autres termes, toute la confusion et la panique qui s'emparent des personnages enrayent l'action. Et pourtant, les personnages sont unanimement soumis au désir irrépressible de voir l'événement catastrophique, lequel témoigne moins pour ce qu'il traduit que pour ce qu'il révèle, moins pour ce qu'il est que pour ce qu'il déclenche. Sa signification s'absorbe dans son retentissement, il n'est qu'un écho, un miroir de la société, un trou, c'est ce qu'avait bien montré Pierre Nora en étudiant ce qu'il appelait l'événement monstre. Évidemment, de ce point de vue, dès la première scène catastrophique du film, le centre de gravité de celui-ci se déplace, au sens où c'est le second plan qui appelle d'abord le regard. Et si le choix de la caméra portée permet de réduire au maximum le champ de vision, ce choix permet aussi de conserver à l'événement toute sa puissance. De ce point de vue, le choix de New York ne doit évidemment rien au hasard, et en détruisant cette ville symbolique des valeurs américaines et en anéantissant l'emblématique Statue de la Liberté, Cloverfield donne bien à voir une image de l'apocalypse au sens strict du terme. Une apocalypse qui est non seulement l'affirmation de la fin d'un univers, mais aussi un dévoilement, une révélation de ce qui était caché, de ce qui, jusqu'alors, gisait au fond du monde social. Une apocalypse, en quelque sorte, sans apocastase, c'est-à-dire sans restauration finale. Il en ira de même pour le deuxième volet et pour le troisième volet, dont on reparlera très bientôt. Porter atteinte à New York, c'est porter atteinte non seulement à l'Amérique, mais au monde tout entier. À cet égard, on serait tenté d'avancer l'hypothèse que Cloverfield est aux attaques du 11 septembre, ce que le Godzilla de 1954 fut à la destruction de Nagasaki et d'Hiroshima. Cependant, l'ensemble du film constitue aussi une réflexion sur notre aliénation aux images, sur l'obsession hypermoderne de tout filmer, quelles que soient les circonstances, y compris les plus obscènes. Et une question lancinante poursuit les spectateurs, comme elle poursuit d'ailleurs les personnages, comment ce que nous voyons est-il possible? Cloverfield se fonde alors sur une étrange alliance. L'image vidéo avec ses contingences possède un puissant effet de réalité, voire de vérité. Mais à rebours, les effets spéciaux, notamment dans la mise en scène du monstre, viennent régulièrement mettre à mal la crédibilité de la dite image, rappelant sans cesse au spectateur que c'est bien une fiction dont il parcourt les méandres. Il y aurait d'ailleurs quelque chose à faire sur le labyrinthe dans les trois Cloverfield, et je suis sûr que Juliette, dans son analyse de l'espace, en parlera tout à l'heure. De cette ambiguïté entre la prise de conscience que tout est factice et la stupeur qu'induit un tel réalisme, naît l'impression troublante et même carrément dérangeante que tout est possible. Cette familière étrangeté qui correspond à ce moment où l'intime surgit comme étranger, comme inconnu, sous la forme d'une altérité tellement absolue qu'elle en devient effrayante, provient précisément du fait que ce que nous voyons est censé n'être jamais que des roches. Ce qui laisse en suspens quantité de questions, parmi lesquelles, qu'est-ce que le film montre qui expliquerait que l'armée ressente le besoin de l'étudier et de le garder? Pourquoi ce film est ainsi classifié et non vendu à tous les réseaux d'information du monde? Ou encore, qui regarde avec nous le film que nous voyons? Des agents spéciaux du FBI, des fonctionnaires de la NSA, des scientifiques appartenant à tel ou tel complexe militaro-industriel, ou nous seuls qui serions les derniers survivants? Peut-être que nous sommes d'ailleurs les 5 derniers survivants à avoir vu le premier Cloverfield, mais on ne le sait pas encore, il faudrait un 4e volet naturellement pour que nous en prenions pleinement conscience. Parce qu'il appartient à la tradition du cinéma direct, on pourrait presque le comparer avec Cannibal Holocaust, qui pourtant appartient à un genre extrêmement différent. Le film de Matt Reeves et Abrams, c'est un film où l'image se substitue au regard. Ne proposant à l'intérieur de la diégèse aucun recul critique, il réduit même le statut de personnage à celui de simple rescapé en sursis. Il n'y aura d'ailleurs qu'une seule survivante à la fin, Lily. Spoiler alerte en quelque sorte, mais enfin, je pense que l'affaire est entendue. Se présentant à la fois comme un faux documentaire et comme un documentaire falsifié, il est probablement une des fictions qui correspond le plus étroitement aux préoccupations du monde contemporain. Il n'est d'ailleurs pas anodin, à mon avis, qu'il soit sorti la même année que Diary of the Dead, que Rec et que Redacted. Tous ces films tournant autour de l'idée qu'un événement exceptionnel, une situation impossible, anormale, ça peut être la résurrection des morts, ça peut être un viol et un meurtre terriblement brutal et violent, ou ça peut être l'invasion de la planète par un monstre terrifiant, ou bien l'exposition à une maladie virale réveillant les morts. Dans tous les cas, un événement vient bouleverser le quotidien et en illustrer sa nature même. Dans tous ces films, le quotidien de tout un chacun, filmé, recueilli ou mis en ligne, devient un spectacle au même titre que les événements majeurs de l'histoire. Et c'est aussi des interférences entre vie privée et sphère publique que Cloverfield cherche à rendre compte, d'où l'importance cruciale des fragments de l'intimité de Rob et de Bess, enchâssés dans les images de la quête et de la fuite du petit groupe. Iconophile, tout comme l'est la mort elle-même, l'hypermodernité aime à faire voir et revoir sans cesse cette mort. Il ne s'agit plus cependant, comme dans les vieux Artes Morandi, d'apprivoiser le trépas, mais de se réjouir de son spectacle. Je pense beaucoup en cette période virale, peut-être qu'on se réjouit plus finalement du spectacle de la maladie que de la possibilité de l'apprivoiser. Pourtant, Reeves et Abrams eux-mêmes ont joué de tous les moyens de l'hypermodernité virale, de cette nouvelle communication de masse pour lancer leur film. On y reviendra peut-être dans les questions, mais on sait que dès juillet 2007, en réalité, ils ont inventé des campagnes virales parfois contradictoires entre elles pour que ce groupe des communautés interprétatives de geeks qui inventait déjà l'histoire à venir, en quelque sorte. Et c'est ce qui explique aussi la circularité des 3 volets, très probablement, et aussi leur infinité, puisque le 3 n'est pas véritablement une conclusion et que le premier n'est pas non plus la conclusion du 3e volet. De ce point de vue, la fin du film est elle-même équivoque, profondément troublante à 2 titres. Et ça sera le dernier point que j'aborderai. D'abord, dans la dernière scène, on retrouve Rob et Bess, alors que nous les avons connus morts quelques minutes auparavant, non pas d'ailleurs tués par le monstre comme Hud, mais pulvérisés, atomisés au sens propre du terme par l'aviation américaine. On les retrouve avant que l'histoire n'ait commencé, à leurs jours heureux sur la grande roue de Coney Island. La caméra est tournée vers la mer et le spectateur avisé remarque au loin, comme je le signalais tout à l'heure, sur la droite de l'écran, vous regarderez, à côté d'un ferry, une forme qui, tombant du ciel, plonge dans l'océan. Le véritable début serait donc là, à la fin d'une belle journée, qui est comme l'envers anticipé de la nuit infernale où le monstre émergera des flots. On apprend également que moins d'un mois sépare les 2 événements. Les jours heureux à Coney Island sont le 27 avril, et puis l'apparition du monstre proprement dite et la mort des amis remonte, enfin, date du 22 au 23 mai. Moins d'un mois donc sépare les deux événements, la naissance de l'amour entre deux amis d'enfance et la mort de ces derniers. Et voilà, me semble-t-il, une autre pensée insupportable, qu'il y ait si peu de temps entre le bonheur et le trépas, entre la joie et le désastre. Au surplus, à la toute fin du fabuleux générique, hein, le générique Roar, qui est un jeu postmoderne sur la musique qu'avait composé Akira Ifukube pour Godzilla, à la toute fin donc, du générique, après que l'aviation américaine a bombardé Manhattan pour anéantir la créature, et alors que Rob et Bess sont ensevelis sous les décombres du pont sous lequel ils s'étaient réfugiés, on entend un grésillement ténu et une voix lointaine, terrifiée et inquiétante, qui murmure « Aidez-nous, il est toujours vivant. Help us, it's still alive, il est toujours vivant. » Tout cela est-il vraiment fini? Rien n'est moins sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'ainsi que l'annonçait Hud, il est bien des gens qui essayent de comprendre ce qui s'est passé, et nous en faisons partie, pris que nous sommes dans le tourbillon de l'histoire et le tourbillon des événements.